Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwar et c'est l'heure de l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Diwar. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-François Barbieri. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Barbieri, vous êtes ici pour nous présenter votre nouvel ouvrage qui s'intitule « Saletan pour le mal ». Pour vous, c'est un livre qui vous a été inspiré par cette période aujourd'hui où une certaine représentation féminine vous semble peut-être excessive dans ces démarches.
Oui. C'est-à-dire que j'ai décidé, on va dire, que dans chaque roman, d'aborder un thème qui m'est cher. Alors, souvent, bien sûr, un thème d'actualité. Alors, pour revenir au premier, Poulet-Rôti, c'est un peu sur les fonctionnements et surtout les dysfonctionnements de la police d'aujourd'hui, tels que moi, je les constate, je les ressens par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques années. Une police qui agit en période de pandémie, en période de contestation gilets jaunes, etc., et qui passe son temps à plus faire de la répression qu'autre chose, et à plus servir, à mon sens, un pouvoir politique qu'à servir la population. Hein. Donc ça, c'était pour Poulet-Rôti, une histoire qui se passe dans la région de Gap, où je demeure d'ailleurs. Le second, là, j'ai voulu aborder un peu le thème des religions, parce que c'est un thème qui m'intéresse aussi. Alors, je dis pas de la religion, des religions. Et je suis parti, là, de l'incendie de Notre-Dame de Paris et une enquête policière fictive qui amène à parler des religions, puis à découvrir l'auteur de l'incendie. Voilà, j'en dis pas plus. Je garde la surprise pour les éventuels lecteurs. Et là, pour ce troisième, effectivement, j'ai voulu aborder le thème de l'écoféminisme ou de l'écolo-féminisme, je ne sais pas si on dit les deux, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment. On en parle beaucoup. Je constate, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et beaucoup de, je dirais, on pourrait appeler ça des dérapages, non, je ne pense pas que ce soit des dérapages, mais enfin, sur certains points, je trouve que c'est assez contestable. Et puis voilà, j'en ai fait un roman, donc c'est une fiction. Bien sûr, on y trouvera quelques références, quelques similitudes avec des faits qui se sont passés, avec des phrases qui ont été dites par certaines personnes. Ça, c'est certain. Mais ça reste une fiction. Voilà.
Saletan pour le mal, pour vous, qu'est-ce que ça insinue ou qu'est-ce que ça indique dans ce livre ?
Je voudrais faire ressortir un certain extrémisme qu'on peut trouver dans le mouvement, le néo-mouvement écolo-féministe, qu'on peut trouver aussi des extrémismes dans beaucoup d'autres domaines de la société. Hein. Mais là, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'exagération, à mon sens. Et j'ai l'impression qu'on est passé d'une période où le féminisme, c'était la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, ce qui me paraît tout à fait normal, hein, la lutte à la fois civique, à la fois économique, même si l'économique, elle n'est pas toujours encore réalisée de nos jours. Et on est passé à... Pour certaines féministes ou certains féministes, il peut y avoir des hommes aussi, hein, de cette nouvelle vague actuelle, ils sont passés à une haine des hommes et à un rejet total de la société patriarcale. Alors la société patriarcale qu'ils veulent réformer, mais en détruisant, et ça s'est dit, déconstruire l'homme.
Alors, alors le mal, qu'est-ce que vous y définissez comme dans ce terme ?
Le mal, c'est-à-dire que le mal aujourd'hui il a tous les torts d'être un homme, d'avoir donc imposé cette société patriarcale qu'il faut détruire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. L'homme et la femme sont différents physiquement, physiologiquement. On peut pas y a pas, on ne peut pas faire une égalité parfaite entre un homme et une femme. Je ne dis pas que l'un est supérieur à l'autre, pas du tout. Notamment intellectuellement, je veux dire, les capacités de la femme sont largement au même niveau, voire même peut-être plus dans certains domaines, certainement. Mais bon, après, physiquement, ben, effectivement, il y a des différences, on ne peut pas les gommer. C'est comme ça, la nature nous a fait comme ça. Je veux dire, dans le monde animal, c'est pareil. Et je veux dire, moi, pour moi, l'être humain n'est qu'un animal comme les autres. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi on imposerait maintenant une égalité dans des domaines où on ne peut pas être égaux, tout simplement. Je veux dire, je vais donner un exemple qui date un peu. Je pense que ça a été rectifié, mais à une époque... Au nom de principe de l'égalité, homme-femme, il fallait que, chez les sapeurs-pompiers, par exemple, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Bon, hein, oui, mais enfin, bon, pour aller sauver la vie de quelqu'un qui est en train de se noyer, peut-être qu'un homme, s'il est plus costaud, il va peut-être avoir plus de capacité. Ben, je veux dire, dans les examens de sapeurs-pompiers, à cette époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, on avait rabaissé le niveau de qualification physique pour les femmes. Les épreuves étaient moins dures pour qu'elles puissent être recrutées en nombre, en fait, en nombre suffisant, parce que au nom de ce principe de l'égalité, mais je trouve que c'est une aberration. Le jour où il faut aller chercher le noyé, la femme va dire ben non, moi je suis une femme, je suis aussi fait plus de 65 kilos, je peux pas le sortir de l'eau. C'est n'importe quoi. Qu'on respecte les différences hommes et femmes. Et si un métier nécessite une force physique plus importante que ce qu'a en général l'homme, et ben c'est automatiquement, c'est logique que ça soit l'homme qui soit favorisé sur ce métier. Et dans d'autres domaines, ça sera la femme. Je veux dire, dans le domaine intellectuel, moi j'ai toujours remarqué, même dans ma profession, bon, j'étais policier, mais j'ai beaucoup travaillé avec des professions judiciaires, les avocats, les magistrats. Bon, ce sont des professions qui sont hyper féminisées. Alors, je ne sais pas à quelle proportion. Est-ce que c'est 40% d'hommes, 60% de femmes ou plus, je ne sais pas. En tout cas, il y avait énormément de femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes réussissent mieux les examens de droit ou autre, et qu'elles sont meilleures dans ces matières-là. Et j'ai jamais entendu les hommes se plaindre qu'il y avait trop de femmes dans la magistrature ou trop de femmes chez les avocats. À part les gros voyous qui, par machisme, étaient un peu vexés d'être condamnés par une femme qui était présidente d'un tribunal. Mais je veux dire, dans ce domaine, si les femmes étaient meilleures, eh bien, tant mieux pour elles, qu'on utilise au mieux les compétences des uns et des autres, et des unes et des autres, et voilà.
Satan pour le mal est un roman, donc est-ce qu'on peut amorcer l'intrigue cet ouvrage ?
L'intrigue, oui, c'est bon. L'histoire se passe dans un peu dans la région. J'aime bien les Alpes. ça se passe en Haute-Provence, du côté de Sisteron et sur Marseille. Voilà. Donc il y a une communauté écoféministe qui est un peu paumée dans la montagne, là, qui vit un peu de sur elle-même. Comme cela existe un peu à droite à gauche, y compris dans la région de Die, je pense. D'ailleurs, j'ai failli faire passer l'action par ici. Mais et puis bon, bah, comme il se passe des choses pas très catholiques, on va dire entre guillemets, bah, à un moment donné, il y a un drame, une tragédie qui amène la police à faire une enquête et à découvrir des choses qui devraient pas se passer. Voilà, tout simplement. Je vais pas en dire plus. Alors pourquoi je le fais passer ? Je fais se dérouler l'action du côté de Sisteron. Tout simplement parce que je cherchais un endroit très, très isolé où ce type de communauté va s'installer et vivre un peu en autarcie. Et je l'ai fait sur Sisteron parce que comme je voulais faire rentrer dans ce roman des services que j'ai bien connus, vu que j'y ai travaillé à Marseille, à la police judiciaire, que ce soit à la brigade criminelle ou à la brigade des stupéfiants. Il se trouve que Marseille n'est pas compétent, ça n'est pas compétent pour travailler sur la Drôme, par exemple, hein, donc je ne pouvais pas le faire travailler ici, est compétent pour travailler sur les Hautes-Alpes, où je demeure, et il y a aussi des endroits très tranquilles. Mais de fait, on n'y travaillait jamais parce que c'était à la fois loin et à la fois ça dépendant de la cour d'appel de Grenoble. C'était très compliqué. Donc en fait, on ne travaillait jamais sur ces secteurs qui étaient en fait réservés à la gendarmerie, tout simplement. Donc, alors que les Alpes d'Haute-Provence, ça nous arrivait de venir y travailler. Donc, j'ai fait se dérouler l'histoire dans un coin assez perdu, une zone blanche, du côté de Sisteron. Je suis allé voir sur place. Je décris toujours des endroits où je suis allé, ou que j'ai connus par mon passé. Hein. Et comme je veux, dans mes romans, vu mon passé professionnel, je veux rester au plus près de la réalité des enquêtes, y compris dans des détails que c'est vrai que certains lecteurs vont dire mais je m'en fous moi que ça se passe à Sisteron parce que ça dépend du secteur de la police judiciaire de Marseille et pas de Lyon. Mais moi je me dis toujours si j'ai un ancien collègue qui lit le livre et il va tout de suite dire non mais ça c'est pas possible parce que moi c'est la réflexion que je me fais lorsque je lis un autre roman policier d'un autre auteur. Je vois ça,
c'est quand même de la fiction donc
oui,
on peut
c'est
se
la
permettre
fiction, bien sûr mais enfin la fiction sur l'enquête parce que l'enquête que je décris par exemple c'est pas une enquête à laquelle j'ai participé ni même qui ressemble à une enquête à laquelle j'ai participé. Là, j'invente complètement. Mais dans la façon dont les gens travaillent et où ça se déroule, là, j'essaye de rester au plus près de ce qui se fait ou de ce qui se faisait dans la pratique il y a peu de temps encore. Voilà.
Est-ce que vous comprenez un petit peu, ou tentez de comprendre, justement, ces mouvements féministes que vous considérez comme excessifs
Je comprends leur démarche originelle, l'idée originelle de vouloir l'égalité, mais justement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils deviennent excessifs.
C'est plus que de l'égalité, c'est de l'équité.
Je ne sais pas si c'est la recherche d'équité qu'ils recherchent. Enfin, moi, oui, je rechercherais l'équité, mais là, sur certaines personnes, certains comportements de ce type de mouvement, ils recherchent une domination et à exclure complètement l'homme. Alors, c'est pour ça aussi que dans ce roman, cette communauté écoféministe se revendique d'être des nouvelles Amazones. Alors, je me suis beaucoup renseigné sur les Amazones, qui ne sont pas qu'une légende. Hein. Ce sont véritablement des peuples, des tribus qui ont existé dans l'Antiquité, du côté de la mer Noire, par là-bas. Elles ont beaucoup été décrites par les Grecs. Les Grecs étaient leurs ennemis, donc peut-être les Grecs n'ont pas décrit tous les bons côtés, mais il y avait certains éléments qui faisaient qu'elles ne vivaient qu'entre femmes. Les hommes étaient exclus, par principe, on va dire. Bon, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'acceptable dans nos sociétés. Tout se fait les uns pour les
autres. Sale temps pour
exclure, voilà.
La femme dans la civilisation grecque n'avait pas une place primordiale non plus.
Effectivement, c'est pour ça que les Grecs ont beaucoup critiqué les Amazones. Alors, et peut-être qu'ils ont un peu exagéré ce qui se passait chez les Amazones, mais les peuples Amazones ont vraiment existé. Il y a eu des traces archéologiques qui ont été retrouvées. Elles étaient des guerrières. Alors, par exemple, le fait qu'elles... Bon, qui peut avoir une importance par rapport notamment au livre que j'ai écrit, le fait qu'elle pouvait éliminer les enfants mâles qui naissaient, on le sait par les Grecs. Est-ce que c'était une réalité historique et sociologique à l'époque ? Ça, je ne peux pas le dire.
J'aimerais revenir à une époque plus récente et proposer à l'écoute une bande-annonce d'un film de Chantal Akerman qui s'intitule Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080, Bruxelles.
Thank you.
Voilà, j'avais envie de passer cet extrait sonore d'un film qui a été reconnu la semaine dernière par le British Film Institute comme le film de toute époque du cinéma. C'est un film donc de Chantal Akerman qui est sorti en 1976 et qui parle du quotidien sur 3 jours d'une femme qui vit à Bruxelles avec son fils de 16 ans et qui est veuve et donc qui s'attache aux tâches quotidiennes pour maintenir le logement, l'éducation du fils, et elle aussi elle procède un peu à de la prostitution pour pouvoir subvenir également. C'est un film d'une grande longueur puisqu'il dure 3 heures, et ce sont des plans plutôt séquences qui marquent et qui définissent un peu le quotidien de ces femmes de l'époque, c'est-à-dire la femme au foyer. Est-ce que c'est aussi ce que les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus?
Je pense que dans notre société française, la femme purement au foyer, elle n'existe plus beaucoup. Bon, elle existe encore, certainement. Bon, l'évolution économique suite aux guerres et autres a fait que la femme est rentrée dans la vie active économique depuis au moins la guerre de 14. Et elle, ce qui lui a imposé même une double vie, une double tâche. De non seulement travailler soit à l'usine ou ailleurs, et puis ensuite continuer à travailler au domicile pour faire les tâches ménagères. Donc en fait, c'est encore plus de boulot qu'avant. Ça lui a assuré d'une autre façon une certaine indépendance financière qu'elle ne pouvait pas avoir auparavant. Alors effectivement, tout ça, ça a évolué en un siècle. Et c'est d'une certaine façon une bonne chose. D'avoir l'indépendance financière, c'est excellent parce qu'elle ne dépend plus de son mari ou d'un homme. L'inconvénient, c'est qu'elle est obligée de travailler 2 fois plus, puisqu'elle fait son travail, on va dire, à l'usine, entre guillemets, et au domicile s'il y a les enfants, parce que bon, ça reste encore majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants et du ménage à la maison. Enfin, ça évolue quand même. Ça a quand même beaucoup évolué ces dernières années, et notamment ces 30 ou 40 dernières années. Moi, je vois par rapport à la façon dont...
On peut dire que, effectivement, la forme a évolué, mais est-ce que le fond a changé?
Oui, si, le fond a changé aussi, parce que je vois mes grands-parents, mes parents, moi-même, on a fonctionné différemment. Moi, bon, j'avais 20 ans dans les années 80. Même dès cette époque-là, je ne me voyais pas faire le pacha à la maison pendant que Bobonne faisait tout. J'ai jamais eu ça à l'esprit. Alors, après, il se trouve effectivement que dans certains couples, on se spécialise plus ou moins, parce que bon, soit par goût, soit par capacité. C'est-à-dire, s'il faut réparer la voiture, ça va être peut-être plus moi parce que ça m'intéresse, ou autre. À côté de ça, mon épouse ou mon ami aime faire la cuisine et que moi, ça ne me plaît pas trop, donc automatiquement, on va faire un peu un partage des tâches, on va dire. Pareil pour l'éducation des enfants. Je veux dire, aujourd'hui, très fréquemment, l'homme s'occupe autant des enfants que la femme. Alors, c'est pas partout pareil, effectivement. Il y a encore des couples qui fonctionnent à l'ancienne, on va dire, avec monsieur est dans le canapé, regarder la télé, pendant que Bobonne fait tout. C'est vrai que ça existe encore. C'est vrai que ça devrait disparaître. Mais on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, en quelques années, faire tout ça. Et même en une génération, c'est difficile. Donc ça prend du temps. Déjà, dans les législations et dans le... par exemple, dans les... le salaire égal, travail égal, salaire égal pour l'homme, la femme, c'est quelque chose qui dans l'administration existe, qui devrait exister dans le privé. Malheureusement, c'est pas encore complètement, mais ça avance petit à petit. Ça se fait, au niveau légal, l'égalité. Elle est faite. On ne peut plus rien faire. Alors, effectivement, maintenant, c'est les mentalités à changer. Mais les mentalités, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut être patient. Ça se fait petit à petit. Et je dirais qu'il ne faut pas brûler les étapes et imposer par certaines lois qui, je dirais, deviendraient discriminantes pour les hommes, un système. Moi, je suis contre la sélection positive. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les pompiers, il faut autant d'hommes, de femmes dans telle profession. Alors ben là, on va abaisser les critères pour qu'il y en ait autant. Toutes les différences ne peuvent pas être gommées. De temps en temps, ça profite aux hommes, de temps en temps, ça profite aux femmes. Ben, c'est comme ça. On peut pas tout régler d'un coup de baguette magique et surtout pas en imposant de la façon dont certaines militantes féministes qui font de la politique voudraient le faire.
On avait déjà abordé, je crois, l'aspect du féminicide. Est-ce que c'est un sujet qui est présent dans cet ouvrage ?
Non, à un moment donné, je parle de féminicide en tant que terminologie. Parce qu'en fait, le féminicide, c'est un terme journalistique. Dans le code pénal, il n'existe pas de mot de féminicide. C'est un homicide, mais un homicide au sens général. C'est-à-dire qu'on tue un humain. De même que l'infanticide n'existe pas non plus. Alors on pourrait l'intégrer dans le code pénal. Peut-être qu'un jour, il y aura une petite réforme pour changer les mots. Mais ça va changer quoi ? Est-ce que c'est en changeant les mots qu'on va changer les faits, qu'il y aura moins de féminicides parce qu'on aura introduit le mot féminicide dans le code pénal. Et je ne vois pas pourquoi ça sera une circonstance aggravante de tuer une femme plutôt qu'un homme. Il y a des femmes qui tuent des hommes aussi, pour parfois les mêmes raisons. Alors, moins sous les coups, parce qu'en général, les femmes sont moins fortes. Mais bon, à partir du moment où on peut sortir une arme, l'homme peut être tué aussi, pour une crise de jalousie, pour n'importe quoi. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès de vouloir mettre les femmes au niveau des hommes à tout prix, faire de la discrimination inverse au détriment des hommes, ça me semble pas être une bonne chose. Et parfois, c'est dans le discours, je dis pas pour l'instant dans les actes en France, mais dans le discours de certaines personnes qui se revendiquent des mouvements néo-féministes, il y a un peu de ça. Et je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense d'ailleurs que beaucoup de femmes ne sont pas d'accord avec ça non plus. Seulement, bon, on entend en général que celles qui crient le plus fort. Ou alors la presse veut se faire l'écho de celles qui crient le plus fort. Et toute ce qu'on appelle la majorité silencieuse, on ne l'entend pas. Essayer de mettre un bémol au discours qui est parfois haineux contre les hommes.
Cet ouvrage, vous l'avez constitué avec aussi des échanges d'anciens collègues ou de fonctionnaires de police. Je parle pas par rapport à une réalité, mais est-ce que vous vous en inspirez justement pour avoir écrit ce livre ?
Non.
Il n'y a pas cette préoccupation dans les services de police sur cet aspect-là du féminicide ou de l'homicide.
À ma connaissance, non.
C'est pas un sujet que vous abordez dans
Moi, à mon époque, c'est pas un sujet qu'on abordait. Bon, c'était il y a assez longtemps. J'ai quand même quitté la police il y a les services actifs quasiment 15 ans, la police 10 ans. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça ait changé. Un homicide, même si c'est une femme victime, donc on va dire journalistiquement parlant, un féminicide est aussi important que le meurtre d'un homme. Après, nos politiques, pour faire bien, le ministre de l'Intérieur va peut-être dire « Oui, je vais sensibiliser les services de police à ceci, à cela ». Bon, ça reste que des paroles. Hein. Dans la réalité, quand vous êtes de permanence à brigade criminelle, vous avez, comme on dit, un macabé qui est là, il faut traiter l'affaire, que ce soit un homme ou une femme, et c'est pareil. Et on ne va pas traiter l'affaire différemment parce que c'est une femme en disant « Oh, bah, de toute façon, elle l'avait bien mérité », quelque chose comme ça. Ça, j'ai jamais entendu de paroles comme ça. Hein. Peut-être ça peut arriver que quelqu'un le pense. Ça, c'est possible. Mais j'ai jamais entendu de tels propos. Donc, je ne pense pas, en tout cas, sur ces 30, 40 dernières années, avoir d'exemples où les féminicides étaient traités à la légère par la police sous prétexte que c'était simplement des femmes et que c'était moins grave. Enfin, je veux dire, ça, si quelqu'un osait dire ça, je voudrais bien qu'il en apporte les preuves.
Depuis quelques années, en réaction au féminisme, des mouvements se prenant ou se désignant être masculinistes ont émergé. D'abord, comment ressentez-vous cet aspect de société? Et est-ce que certains personnages dans ce livre y ont trait?
Alors non, dans ce livre, j'en parle pas. Alors effectivement, je sais que ça existe, hein, comme à chaque fois qu'il y a une réaction, il y a un fait, il y a une réaction à l'inverse. Hein. Surtout quand il y a un fait que je dirais un peu extrême. Mais bon, on va retrouver de l'autre côté l'émergence d'un mouvement totalement à l'opposé de ça. Moi, j'en parle pas, mais je pense que ça reste vraiment mais très anecdotique. Déjà, les mouvements féministes extrémistes, il y en a pas tant que ça. Elles font du bruit parce que ben, elles veulent exister, se faire entendre, donc elles font du bruit, y compris dans nos régions. J'ai même été victime de ça tout récemment. Je vais vous expliquer. Mais les mouvements féministes extrémistes restent quand même très minoritaires, même dans le mouvement féministe d'aujourd'hui. Mais on en parle. On en parle parce qu'elles font des actions soit violentes, soit des déclarations qui font le, pour histoire de faire le buzz. Donc les mouvements, on va dire, masculinistes inverses, c'est encore plus anecdotique. Là. C'est, voilà. Alors pour revenir à ce que je viens de vous dire, effectivement, j'ai été une petite victime d'une petite manifestation d'humeur d'un mouvement féministe qui a voulu perturber une présentation de ce livre il y a 15 jours sur Vennes, où j'avais rendez-vous dans une librairie pour présenter le livre. Et au petit matin, alors ça, il y avait un article de presse dans le Dauphiné qu'il avait présenté sans rentrer en détail sur le livre lui-même. Hein. Et bon, bah là, à mon arrivée, la librairie avait été... il y avait des affiches collées sauvages, riposte féministe avec les autocollants Vagin Vigilant, qui est une association un peu extrémiste de défense des femmes. Sur le trottoir, il y avait un grand tag à mon nom, disant que je n'étais pas le bienvenu. Et surtout, la porte de la librairie avait été collée avec de la colle dans la serrure, histoire d'empêcher la libraire d'accéder à son local et d'ouvrir. Alors moi, ça ne m'a pas trop gêné. J'ai fait ma présentation dans la rue sur une petite table qu'on m'a prêtée. Mais la libraire, elle, a été... Alors c'est moi qui étais visé, mais c'est la libraire qui en a été victime. Moi, je trouve ça assez lamentable comme attitude. Je ne suis pas le seul. Je peux vous dire que tous les gens qui sont passés, qui ont été, pas témoins des dégradations, mais qui ont vu ce qui s'était passé, étaient outrés au nom tout simplement de la liberté d'expression. Il n'y a pas à dégrader les trucs et à empêcher les gens de parler. Je veux dire, ça m'a fait plus sourire qu'autre chose. Alors, je ne m'attendais pas à ce type de manifestation. Je m'attendais plutôt à quelqu'un qui passe me voir et qui pourquoi pas, entame le débat et critique ce que j'écris. Hein. Et encore faut-il que les gens l'aient lu. Vu que le livre venait de sortir, les gens n'avaient même pas lu. Ils s'étaient fiés simplement à une petite présentation dans le journal. Voilà. Alors, au final, ça a plus été l'inverse qu'autre chose. Beaucoup de gens m'ont acheté le livre parce qu'ils étaient... le sujet les intéressait. Et puis pour me soutenir dans ma démarche. Et la démarche de la libraire, la librairie Feta à Vennes, qui, au nom de la liberté d'expression, m'avait accueilli.
Vous parlez de mouvements masculinistes qui sont une minorité. Est-ce que cela est-il vrai peut-être en France, mais aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus prononcé. Je reviens d'ailleurs en France quand même, puisque il y a des rendez-vous donnés entre hommes sur ces abords de la vie en société, même à dit. Hein, il y a des choses qui sont proposées. Donc c'est un mouvement qui s'étend et qui se...
Alors, c'est vrai que c'est un mouvement que je ne connais pas. Effectivement, là, je manque d'informations là-dessus, mais c'est vrai que ça ne me surprend pas, parce que je dis qu'il y a, on va dire, comme une horloge, hein, un pendule. Dès que ça va d'un côté, ça va toujours de l'autre côté après. Donc il y a un retour de manivelle, on va dire. Alors le fait que ça soit plus répandu aux États-Unis, ça ne m'étonne pas. Et malheureusement, comme en général, ce qui nous arrive au niveau sociétal, ça vient souvent des États-Unis. Donc effectivement, il faut s'attendre qu'en France, ça se développe. Je le regrette aussi parce que, je dis, moi, dans la société, on est fait l'un pour l'autre, les hommes, les femmes. Alors pourquoi on va faire des sociétés où chacun va vivre de son côté? Alors les femmes, maintenant, qui font des mouvements féministes où elles ne veulent plus de mecs, et les mecs vont faire pareil de leur côté en disant on veut rester entre mecs, on ne veut pas de femmes pour X raisons. Je trouve ça d'un ridicule. Et c'est pour moi, c'est contraire aux valeurs de l'universalisme que je soutiens toujours, toutes ces valeurs qui nous viennent de l'époque des Lumières, du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, un être humain, il n'y en a qu'un seul, qu'il soit homme, femme, jaune, gris ou blanc ou noir. On est tous pareils, il n'y a pas à faire de différence. Et là, on est en train de rentrer dans un nouveau communautarisme. L'exclusion de celui qui est différent. Et je pense qu'on fait les gens qui font ça font fausse route, et c'est aussi d'un certain point de vue économique et social. Ça, je le mentionne dans mon livre parce que je fais parler mes personnages. J'ai l'impression que depuis quelques années, avec notamment aussi, je vais élargir le propos sur tous les mouvements woke, on a remplacé la lutte des classes par la lutte des genres, notamment. Pour moi, c'est les genres, il n'y en a qu'un, c'est le genre humain, point barre. Alors, peut-être par très rétrograde aux yeux de certains, alors que les classes sociales, ça reste quand même une réalité. Et là, ça arrange certainement peut-être le patronat, qu'on n'en parle plus. Mais pour moi, la lutte des classes reste toujours d'actualité, alors que la lutte des genres, pour moi, c'est un faux combat.
Jean-François Barbieri, donc, je vous rappelle votre titre d'ouvrage « Sale temps pour le mal » en auto-édition.
Se le procurer, vu qu'il est en auto-édition, alors auprès de moi-même, c'est-à-dire, je vais vous donner les coordonnées de mon site internet où vous pouvez aussi trouver des articles de présentation de ce livre-là et des précédents, et où vous trouverez aussi cette interview. Alors, le site, c'est www.jeffbarbieriauteur. Jeff Barbieri, auteur, alors J-E-2-F, B-A-R-B-I-E-R-I-A-U-T-E-U-R, tout attaché, .com. Donc là-dessus, vous pouvez trouver mes coordonnées. J'ai un site Facebook aussi, Jean-François Barbieri, auteur, où vous avez mes coordonnées. Et donc, dans ce cas-là, vous me contactez, je vous envoie le livre. Ou alors, à la librairie Effeta, qui est à Vennes, rue Jean Jaurès. C'est une petite librairie qui vend surtout des livres d'occasion, mais quelques livres neufs. Et puis, actuellement aussi, alors pour ceux qui sont dans le secteur de Saint-Julien-en-Bouchaine, il est présent à la ferme de Beaumugne, en attendant que d'autres lieux, points de contact me soient ouverts. Mais pour l'instant, on va dire le mieux, à la rigueur, c'est de me contacter. J'enverrai ça avec une dédicace personnalisée, si possible, au prix de 17 euros, plus les frais de port en général. Par la poste, c'est 6 euros l'envoi. Si c'est groupé, s'il y a plusieurs livres, ça revient moins cher. Voilà.
Dernière question avant de se quitter. À qui s'adresse ce livre, « Sale temps pour le mal » ?
À tout le monde. À tout le monde, dont le sujet leur importe, à tout le monde qui a envie de rire aussi, parce que je mets une dose d'humour dans ce livre. C'est pas que je me moque spécialement des écoféministes, mais je mets toujours une dose d'humour, quand même, que ce soit des jeux de mots, des contrepétries, des choses comme ça, enfin bon, ou des situations un peu croquignolesques. Histoire d'alléger un peu le propos, parce que bon, ça reste, comme ça reste un roman policier, il y a toujours automatiquement un drame. Il faut qu'il y ait un drame dans l'histoire, que ce soit quelqu'un, un assassinat ou autre chose, enfin, n'importe quoi. Mais donc il y a des pages où c'est pas drôle. Et puis bon, ça, j'allège en mettant des pages qui font au moins sourire, j'espère.
Jean-François Barbieri, merci en tout cas d'être venu sur Air du Bois pour nous parler de votre dernière parution, donc Saltan pour le mal. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Eh ben, je vous remercie. Merci. Le bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Et encore merci à Radio Diwa de m'accorder cette interview. Je commence à être un habitué du coin. Voilà. Très bien. Merci.
Au revoir.
Au revoir.